Espace 2.
Chant libre. Le rendez-vous des musiques chorales. Alain Perrottet, Jean-Pierre Amann. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un chef de chœur de notre région, Vaudois, mais actif aussi en dehors du canton de Vaud, c'est Renaud Bouvier. On va l'écouter tout de suite dans ce qui constitue, je crois, le premier enregistrement que vous avez fait, Renaud Bouvier. C'était avec le chœur de l'école Steiner, l'ensemble Ostias, et c'est une œuvre qu'on ne présente plus. Allez, quand même, Mozart. Un peu d'émotion, je pense. C'était il y a tout juste 10 années, un peu plus maintenant, puisqu'on a passé à 2014. En 2003, vous dirigiez votre premier concert, Renaud Bouvier, avec le chœur de l'école Steiner, l'ensemble Ostias, qui était déjà votre chœur à ce moment-là.
Oui, qui s'est créé pour l'occasion, en fait.
Ah, il s'est créé pour l'occasion.
Voilà.
De même que l'orchestre qui est devenu la philharmonie de... Non, c'est pas ça.
L'orchestre qui était un groupe d'amis ad hoc, hein, comme on dit. Oui, alors de l'émotion, bien sûr. J'avais été contacté par l'école Steiner pour diriger les orchestres, en fait, des classes, puisqu'ils font de la musique depuis tout petit et qu'il y a un orchestre par classe. Et puis, au fur et à mesure des années, j'avais pris la chorale. Et puis, après une petite saison, première saison où on avait fait un concert de Noël, je m'étais dit que je continuerais pas comme ça s'il y avait pas un projet un petit peu d'envergure qui motive mes troupes, mes élèves. Et je m'étais dit, voilà, le Requiem de Mozart, si ça passe, je continue. Si ça passe pas, ben, je ferai autre chose. Et donc, c'était un peu un pari.
Et vous avez continué.
Et j'ai continué 11 ans.
Oui. En fait, vous m'avez dit tout à l'heure, oui, je suis une vocation tardive, Renaud Bouvier. En fait, si je vais sur votre petite bio sur les vocalistes romans, je vois homme de lettres, homme de notes, donc homme de lettres en premier. Ça veut dire que la musique est venue après le plaisir de la littérature?
Alors la musique, elle est venue très jeune comme plaisir, comme accroche et comme passion. J'ai commencé par faire un peu de piano à 6 ans, en dilettante, on va dire. Après, un peu plus sérieusement, j'ai fait du basson, surtout parce que j'avais envie d'être dans l'orchestre des collèges de Jacques Pache. Je crois que s'il avait eu besoin d'un trombone, j'aurais fait du trombone. Mais bon, il se trouve que le basson m'a assez correspondu. Et puis, mais comme formation professionnelle, oui, j'étais d'abord attiré par la littérature, qui m'a pas vraiment quitté. Mais maintenant, 2013, c'est la première fois qu'après ma licence en lettres, je vais me consacrer vraiment qu'à la musique. J'ai fait 19 ans de recherche littéraire à l'Uni, à l'Université de Lausanne, où auprès de fondations privées. Et puis voilà, le dernier tome de la correspondance de Pourtalès va paraître. Et j'y ai travaillé avec Doris Jakubek. Et voilà, c'est, disons que pour l'instant, c'est mon dernier travail littéraire. Et je me réjouis d'être un musicien à part entière désormais.
Qu'est-ce que ça signifie être un musicien à part entière maintenant? Ça veut dire un chœur chaque soir, par exemple?
Ben, actuellement, j'ai 4 chœurs, donc c'est pas à chaque soir. Surtout qu'il y en a un qui travaille pas souvent. Hein, l'Académie vocale de Suisse romande, ça fonctionne pour l'instant au projet. Mais oui, ça veut dire le lundi, le jeudi, le mercredi, et la vie de famille, quand on peut.
Mais on peut vivre que de la direction chorale ou bien il faut quand même combiner avec d'autres activités musicales?
Je pense qu'on peut vivre de la direction chorale, c'est pas encore tout à fait mon cas. Bon, j'ai la chance d'être entouré familialement, en particulier par ma femme qui est prof de littérature au gymnase et qui fait bouillir la marmite pour la plus grande part. Bon, moi, si j'étais seul, je suis bien à mes besoins, mais avec deux enfants, un peu moins. Non, je pense qu'on peut vivre de la direction chorale à condition vraiment de s'y consacrer et puis d'être... Alors, j'ai dit que j'avais une vocation tardive. Ça se double du fait que je suis un animal ou une plante qui pousse lentement. J'ai le temps. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le temps. Je suis assez libre d'accepter des projets qui m'intéressent et de faire évoluer les ensembles avec lesquels je travaille, que je quitte ou que je gagne. Et puis que, ben voilà, il y a la place d'avoir un peu de temps pour creuser des activités plus sérieuses au point de vue professionnel. Mais on n'est pas, je veux dire, on est musicien hein, avant tout. Après, c'est, j'étais pas moins musicien.
Ça définit un peu votre profil quand même. Je pense à l'œuvre qu'on va entendre maintenant, qui est la dernière en fait que vous avez dirigée. Hein, c'est le Child of Our Time de Michael Tippett, sur Michael, que vous avez dirigé avec votre chœur de Neuchâtel, le chœur Cantabile. C'est une œuvre bon, qui ne fait pas partie, qui est quand même un peu moins populaire, on va dire, que le Requiem de Mozart qu'on entendait tout à l'heure, même si elle fait partie peut-être des œuvres importantes du XXe siècle.
Oui, alors c'est sûr que ça, c'est moins donné, surtout par ici. Elle a un rapport assez profond à la pensée, hein, au texte. Et c'est vrai que mon parcours de lettreux fait que j'ai un rapport à la musique qui est un peu orienté, on va dire, du côté du langage. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine depuis le début, et je crois que c'est pour ça que je me suis consacré à la direction en fin de compte, c'est ce mystère bizarre de qu'il y ait des êtres merveilleux qui composent des choses et auxquels il faut donner vie en essayant de comprendre le langage qu'il y a derrière et comment ce langage apporte quelque chose que seule la musique peut apporter. Et puis je pense que je me suis dirigé du côté des chœurs, bien que ma formation musicale était celle de la direction d'orchestre. Il y a cette dimension textuelle derrière les chœurs, évidemment, qui m'interpelle toujours. Alors donc, dans Child of Our Time, le livret du compositeur, ce qui est une particularité aussi assez rare, finalement, en musique. Et donc, j'ai essayé de comprendre son trajet métaphysique en même temps que son langage musical qui est assez personnel, même s'il mêle... Et là, dans l'extrait qu'on va entendre, le Deep River, qui est un spiritual très connu. Ce qui précède évoque la musique, plutôt la musique de film, avec quelques un peu matinée d'accords, un peu de jazz. Mais dans d'autres parties de l'œuvre, il a un langage beaucoup plus personnel, beaucoup plus aride, hein, on va dire, surtout avec le sujet qui est le sien dans A Child of Our Time.
On va vous entendre donc à la tête de l'ensemble symphonique neuchâtelois. Et du chœur symphonique neuchâtelois aussi, cantabile, dans un extrait donc de ce Child of Our Time de Michael Tippett.
Oh,
Nous écoutions un extrait de Child of Our Time. C'est un oratorio de Sir Michael Tippett que vous avez donné, Renaud Bouvier, il y a quelques semaines maintenant, avec le chœur cantabile et l'orchestre, enfin l'ensemble symphonique neuchâtelois à Neuchâtel. Et on entendait les voix d'Elisabeth Bellé, d'Anina Haug, de Valerio Contaldo et de Lisandro Abadi pour le quatuor de solistes. J'aimerais qu'on revienne un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Au fond, le fait que vous soyez un lettré au départ vous amène évidemment à avoir une certaine méthodologie dans la manière, au fond, de comprendre un texte que vous allez faire chanter par la suite. Vous diriez que c'est un avantage par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas cette même aisance pour aborder, au fond, une partition où le texte est important.
Alors, je ne sais pas si c'est un avantage, c'est une particularité en tout cas. La compréhension d'une œuvre musicale, je crois qu'elle passe évidemment d'abord par la musique, mais qui est un langage aussi, alors même s'il n'a pas les mêmes caractéristiques que le langage poétique, par exemple, ou le langage humain, simplement, c'est quand même un langage humain. Ce qu'on apprend, enfin la façon qu'on a d'apprendre à lire des œuvres littéraires est sans doute utile, voire très utile, quand il s'agit de lire un style, une façon d'écrire musicale. Bien sûr, le fond est très différent. Mais enfin, l'analyse et l'idée même d'analyser en essayant d'aller creuser, de voir dans l'écriture quelles sont les intentions profondes de l'auteur, si on arrive à les dégager ou pas. C'est un petit peu comme quand on lit une poésie hermétique peut-être. Bon, certains vous disent « Ah mais plus on analyse en fait, plus on perd le mystère ». Je crois exactement l'inverse. Plus on analyse, plus le mystère s'épaissit en fait, mais plus on a d'éléments pour aller chercher quelque chose qui parle à soi d'abord et puis qui parle à tout le monde.
Mais est-ce qu'il vous arrive d'être en porte-à-faux au fond avec, je ne sais pas, des interprétations qui se sont plus ou moins cristallisées aujourd'hui, qu'on accepte comme telles, puis tout à coup vous dites mais c'est pas possible, on ne pouvait pas le faire de cette façon parce que c'est pas ce que le texte veut dire, donc il n'est pas possible que le compositeur ait voulu la musique de cette façon.
Oui, ça m'arrive en concert en fait, quand je vais écouter des concerts où tout d'un coup j'entends un passage d'un oratorio où à mon sens, le sens profond du texte inviterait à faire ça, je sais pas, par exemple, plus dramatique ou plus intérieur, et que la qualité strictement musicale, on veut faire swinger la chose ou... évidemment, musicalement, c'est plus entraînant, mais je pense que le sens... Mais c'est un avis personnel. Mais il y a, je pense, de ça aussi qui m'a conduit à faire de la direction, c'est d'avoir envie de transmettre ce que j'en comprenais. Et puis, dans les interprétations, comme vous dites, un peu canonisées, ça peut arriver. Mais... comme dans la littérature, dans le roman, hein, tout ça est polyphonique et je pense qu'il n'y a pas une seule interprétation. Il y a une voix quand même possible pour plusieurs lectures et puis c'est ça qui est intéressant et qui est intéressant dans ce métier. Et puis je pense qu'on a tous un point de vue et puis les choristes ou les musiciens d'orchestre ont envie de suivre tel ou tel point de vue. Il y a de la place pour beaucoup de voix finalement.
C'est intéressant parce que je crois que c'est une des rares fois où j'ai eu l'occasion d'aborder cette question-là, vraiment, parce que je sais aussi que il y a des gens qui chantent, qui sont aussi des professeurs de littérature, et vous en connaissez un qui a beaucoup chanté, qui était votre professeur, je pense, en tout cas votre confrère.
André Viss. Oui, j'ai même été son assistant à l'université, oui, et c'est lui qui m'a introduit au chœur de la cité, donc j'ai chanté 3 ans, bon, lui était baryton, moi ténor.
Et donc il a souvent servi aussi de référence pour avoir l'avis au fond du lettré sur certaines musiques, aussi probablement des musiques chantées dans d'autres langues. On va entendre un exemple là avec Gretchen Aninoff. Est-ce que ça vous sert aussi d'être un lettré pour aborder des langues étrangères?
Alors là c'est une langue particulièrement étrangère, hein. C'est le slavon, donc le russe liturgique. Alors, c'est un peu un contre-exemple, parce que j'ai choisi cette musique pour les vocalistes romans, d'abord parce que je pensais que ça leur allait bien, et puis je la connaissais pas du tout, et je pense que j'étais pas le seul, vraiment pour des raisons strictement musicales, d'atmosphère, une musique d'état comme ça, planant, enfin comme il y en a souvent dans la Semaine Sainte orthodoxe, et moi j'ai pas du tout accès au texte slavon. Mais par chance, dans les vocalistes romands, il y a quelques polyglottes, et dont un qui travaille à l'ONU, qui parlait parfaitement le russe, le slavon, qui nous a tout traduit. Et on a pu faire un travail sur le texte. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on pouvait arriver aux mêmes conclusions en se laissant guider par la musique. Et là, je trouvais que c'est de... peut-être que c'est aussi lié au fait que c'est une musique liturgique, un peu comme nous, on en avait au Moyen-Âge ou à la Renaissance, où en fait, le rapport du texte à la musique est souvent symbolisé. Hein. Il n'y a pas encore la traduction un peu littérale qu'on peut entendre beaucoup plus directement, je sais pas, dans une messe de Schubert, par exemple, où là, le texte est tout de suite mis en lumière, interprété par le compositeur qui lui donne un habillage musical, un éclairage, tandis que pour Gratchaninov, il y a une image générale. Là, c'est l'extrait qu'on va entendre, c'est l'évocation de la scène, hein, du dernier repas, le repas du soir.
Thank you.
laissons encore un peu de ce silence qui est tellement habité. Alexandre Gretchnaninov, c'était la musique pour la Semaine Sainte que vous dirigiez à la tête des vocalistes romans Renaud Bouvier. Merci d'être notre invité aujourd'hui à Chant Libre. D'abord parce que je crois que vous allez très bientôt avoir un concert aussi. Vous en faites beaucoup finalement avec quatre chœurs. Vous avez guère le temps de souffler. C'est pour quand le prochain concert ?
Alors, le prochain concert, c'est la messe en la bémol de Schubert et le Nachtlied de Schumann avec l'orchestre de chambre de Lausanne, les vocalistes romans et le chœur Ostias. C'est mercredi 22 à la cathédrale à 20h.
Dans trois jours. Alors, parlons un peu de ces vocalistes romans, parce qu'on finit par des fois un peu mélanger les vocalistes romans. Il y a les vocalistes du conservatoire. Alors, quel est ce chœur exactement ?
Eh bien, c'est un chœur maintenant d'une trentaine de personnes. Au moment où j'ai pris ce chœur, ils étaient 16, 18, qui s'est formé entre amis de l'ensemble vocal de Lausanne, surtout au départ, et qui avaient envie de faire de la musique ensemble sans forcément faire beaucoup de concerts d'ailleurs. Donc dans l'amitié, ils se voyaient et travaillaient sans chef. Et puis petit à petit, ils ont travaillé avec certains chefs comme Natacha Casagrande, Yves Bunion. Ils ont beaucoup collaboré avec Jean-Pierre Meucli et son quatuor. Et puis en 2003, je pense qu'ils ont eu envie d'avoir une ligne un peu différente, une certaine stabilité. Et ils m'ont choisi. Donc ça fait 10 ans que je les dirige. Bon, ce chœur, il a quelques particularités. D'abord, c'est des amateurs, mais c'est des amateurs assez éclairés. Il y a beaucoup de musiciens professionnels, pas chanteurs, mais musiciens. Et comme ils ont beaucoup chanté avec beaucoup de monde, ils sont très curieux et il faut les nourrir de répertoire un peu hors des sentiers battus, ce qui me va bien. Enfin, j'aime bien faire aussi les sentiers battus. Hein.
Mais vous dites, Renaud Bouvier, qu'ils ont chanté avec beaucoup de monde, mais ils ont surtout chanté, j'imagine, avec Michel Corbeau, hein, qui est quand même l'ombre qui plane sur tous les noms que vous avez cités, j'imagine. C'est vrai qu'on s'arrête un petit peu à cela. Je pense que les gens qui ont chanté avec Michel Corbeau ont peut-être aussi tout à coup envie de chanter d'autres choses, sans nécessairement avoir besoin de rejeter celui qu'ils ont apprécié, mais peut-être est-ce qu'on sent ça au fond, ce parcours qu'ils ont suivi, peut-être aussi dans un approfondissement dans certains répertoires et puis peut-être aussi dans certaines frustrations de ne pas en aborder d'autres?
Oh, la frustration, je ne la sens pas vraiment, mais c'est vrai que l'ensemble vocal, le répertoire de Michel Corbeau, qui est quand même une référence pour nous tous, la façon de faire son répertoire, on se définit par rapport à lui, et puis la façon de faire un autre répertoire qu'il ne touche pas, par exemple pour des questions de langue. Bon, dans les vocalistes romans, il y a aussi des gens qui ont beaucoup chanté au Pro Arte ou qui chantent encore, il y a d'autres horizons, hein. Surtout maintenant, c'était vraiment à la Fondation que c'était assez lié à l'ensemble vocal. Donc il n'y a pas une réelle frustration, mais plutôt une curiosité de faire découvrir à eux-mêmes et au public des répertoires qu'on entend un peu moins, comme ce Gretchnaninov, ou alors un répertoire qu'on connaît mais qu'on peut éclairer différemment. Par exemple, on a fait un programme qui s'appelait Visage de Poulenc, où on a mis ensemble le Poulenc sacré, le Poulenc profane, les chansons populaires, harmonisé par Poulenc, mais aussi les litanies de la Vierge Noire avec une version orchestre à cordes et timbales. Et du coup, cette couleur d'orchestre à cordes et timbales, le concerto pour orgue. Donc on avait une sorte de portrait comme ça de Poulenc, comme c'est un des plus grands compositeurs du XXe siècle pour chœur. C'était pas un programme très rare, mais c'était peut-être une façon de l'aborder un petit peu différente. Ou des programmes thématiques comme Shakespeare en musique par les compositeurs anglais, américains. Ça, on a fait. Et quand on fait du Bach, alors là, je retrouve les qualités de l'ensemble vocal. C'est sûr que Bach, ça fait partie des gènes, hein, de ces chanteurs. Et voilà, on en fait un peu chaque année. On cultive aussi nos classiques.
Mais ma question n'était pas totalement innocente tout à l'heure lorsque j'ai évoqué donc cette influence de Michel Corbeau qui est prépondérante en Suisse romande et on peut et pas seulement en Suisse romande d'ailleurs. Il y a pas très longtemps, on a eu l'occasion aussi de se rendre compte que au fond, il est un peu à l'origine de toute une kyrielle de chefs au Portugal aussi qui aujourd'hui font un magnifique travail et incontestablement, ils sont nombreux les gens qui ont passé sous son enseignement ou sa baguette en Suisse romande et qui poursuivent. Donc ça nous donne aujourd'hui un paysage très riche, peut-être aussi un paysage qui a de la peine à se retrouver dans tout ça. Il y a un ensemble vocal qui est là, qui se cherche un petit peu aussi toujours dans la présence de Michel Corbeau, mais en sachant aussi que, mon Dieu, un jour il va quand même déposer sa baguette. Comment poursuivre ? Et dans tout ça s'inscrivent des activités d'ensemble qui ont malgré tout quand même un profil plus proche de l'ensemble vocal que, disons, d'un bon chœur oratorio. J'en veux pour preuve la formation de l'Académie vocale de Suisse romande, où certainement, où les vocalistes aussi, où on retrouve des gens qui ont chanté dans l'ensemble vocal ou qui chantent encore dans l'ensemble vocal. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez assez clairement ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de stratégie dans votre esprit et dans celle de quelques-uns de vos collègues aujourd'hui pour vous dire, voilà, vers quoi on devrait aller ?
Oh ben, en parlant de l'Académie vocale de Suisse romande que j'ai fondée avec Dominique Thie en 2009, oui, on avait une stratégie, on l'a toujours, assez claire, enfin, qui part d'un constat qui est le suivant. On est dans une terre en Romandie qui est assez riche en chœurs, qu'il y a des chœurs mixtes dans chaque village, il y a des chœurs d'oratorio innombrables, magnifique, des chœurs amateurs. Et puis finalement, le sommet de la pyramide professionnelle est représenté par beaucoup moins d'exemples. Il y a l'ensemble vocal de Lausanne, qui est un pilier, une référence. Et puis d'autres ensembles qui sont plutôt tournés, spécialisés sur la musique ancienne, hein, comme on en a à Fribourg, à Neuchâtel. Et notre goût commun à Dominique Thie et moi, c'est la musique du XXe siècle, la musique qui est aussi européenne, mais peut-être extra-européenne aussi, et qui, jusqu'à présent, n'était pas vraiment représentée par l'ensemble vocal. Et on s'est dit qu'il y avait une nécessité d'aborder ce répertoire avec des chanteurs professionnels capables d'interpréter de la musique qui est assez exigeante techniquement, qu'on ne peut pas aborder avec nos chœurs amateurs, aussi pointus soient-ils. Et puis, concernant les chanteurs professionnels, alors c'est sûr que c'est un vivier commun entre l'ensemble vocal, l'académie vocale, l'Orlando, enfin tous ces chœurs professionnels. C'est un peu les mêmes personnes qui chantent, mais la perspective d'aborder les œuvres dans ces ensembles est sensiblement différente.
Mais est-ce qu'on peut rêver d'avoir un ensemble qui pourrait aborder ce que fait par exemple le chœur du SVR à Stuttgart, chœur de radio qui fait beaucoup de créations, mais des créations qui sont parfois assez ardues et sans le soutien finalement d'un organisme comme le SVR, la radio, je ne pense pas que ces chœurs pourraient subsister. Donc il faut un répertoire qui reste un répertoire, disons, relativement grand public.
C'est ça. Notre souci, c'était aussi... Il y a eu le chœur de la radio suisse romande, le chœur de chambre romande, dont j'ai examiné attentivement le fond qui était posé au conservatoire de Lausanne. Il y a aussi cette idée-là, oui, de dans l'écriture chorale contemporaine, il y a plusieurs tendances, mais la tendance de l'écriture, disons, la plus exigeante au niveau... elle se tourne beaucoup vers la pratique instrumentale ou l'ensemble de solistes. L'écriture de chœur, en tout cas par ici, il me semble qu'elle est plus, comme vous disiez, elle est plus accessible. Alors, je ne sais pas si c'est ici qu'on peut entamer ce débat. Comment faire que toute musique vive. Si un outil comme l'Académie vocale suisse romande pouvait susciter quelques compositions de la part de compositeurs qui ne se risquent pas au chœur parce que le niveau ne le permet pas, eh bien ça serait déjà quelque chose de gagné dans le continuum qu'on a entre la musique populaire qui est représentée par les chœurs mixtes et puis la création contemporaine en festival archipel, voilà. Si on pouvait avoir un chœur capable de susciter un peu d'écriture.
Mais disons que Renaud Bouvier, vous êtes prêt à accepter finalement de recevoir, je dis n'importe quelle musique, je veux dire, quelle que soit sa difficulté, vous êtes prêt à l'assumer. C'est-à-dire que à partir du moment où vous faites une commande, vous pouvez la faire d'une manière très ciblée auprès d'un compositeur dont vous savez que, en dehors de la tonalité de Do majeur, il va pas s'en éloigner trop. Ou bien alors vous demandez, je sais pas, à quelqu'un dont on sait que la musique est extrêmement pointue, qui va peut-être prendre conscience d'abord des possibilités du cœur, c'est possible. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un cœur qui est en mesure de faire toute musique.
Ça, c'est l'idée. Donc, l'idée, c'est l'idéal.
Oui. Répétition comprise. Hein.
Voilà, oui, mais c'est ça. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Moi, je suis prêt à tout. Je suis curieux. Mmh. Donc, j'aimerais beaucoup avoir une création comme ça qui me demande, qui me pousse dans mes retranchements déjà de comprendre comment c'est fait, comment faire passer cette musique en répétition, comment la construire, comment la faire sonner. Mais il se trouve, c'est vrai que déjà à l'Académie vocale suisse romande, on peut dire à nos débuts parce que c'est encore, ça roule sur quelques projets par année pour des raisons évidentes, financières. Mais dans l'idéal, oui, moi j'aimerais beaucoup.
Mais admettons que ce soit Giorgi Ligeti qui vous aurait écrit le Requiem ou bien Lux Aeterna pour vous et vous auriez dit non. Vous auriez dit non, c'est trop difficile, on n'a pas le temps, on n'a pas le moyen d'avoir assez de répétitions. Comment est-ce que vous auriez réagi face à ça?
Alors si Ligeti m'avait proposé le Lux Aeterna, évidemment avec le recul qu'on a, mais j'aurais été aux anges. Non, c'est une musique sublime, extraordinaire. Peut-être que je sais pas comment ça serait passé. C'est vraiment de la fiction.
On sait pas combien de temps on va pouvoir mettre. C'est ça. Je veux dire, il y a un côté pragmatique. Oui. Est-ce que dès le moment où vous vous engagez à donner un concert à telle date et avec un chœur que vous ne pouvez pas nécessairement bien payer quand même, si vous n'avez pas un soutien, disons c'est institutionnel derrière, voilà. Je pense qu'il y a quantité de chefs-d'œuvre qui ont été refusés pour des raisons purement pragmatiques.
Oui. Alors j'ai quand même assez les pieds sur terre pour refuser si ce n'est pas montable. On a fait le 20 RB avec l'Académie vocale suisse romande et le Quatuor Sinus Domine pour leurs 30 ans à l'Opéra de Lausanne. C'est une œuvre, alors c'est pas une œuvre contemporaine, hein, elle a déjà un certain âge, mais c'est une œuvre qui a nécessité, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu partout que c'est une œuvre qui avait nécessité 99 répétitions pour sa création. Alors c'est sûr que heureusement ça a déjà été créé, on a mis un petit peu
et
moins de temps.
Vous en avez mis combien?
Nous on en a mis une vingtaine quand même.
Comme quoi il y a quand même progrès hein, avec les années. On en écoute un extrait peut-être. C'est un enregistrement qui a été réalisé d'ailleurs par nos soins, par Espace 2. Quel moment est-ce qu'on pourrait entendre?
Bien par exemple le chœur qui suit la mort d'Iseux, c'est assez prenant. Thank you.
On écoutait un extrait du Va-Herbe de Franck Martin que vous avez dirigé, c'était l'année dernière, dans le courant de l'année, avec c'était à l'Opéra de Lausanne, et en l'occurrence, qui étaient vos interprètes?
Alors, c'est l'Académie Vocale de Suisse Romande, le quatuor ciné-nominé Virginie Falquet au piano, et Steve Davis-Lim en Tristan, et Elisabeth Bailey en Niseux.
Alors, il y a beaucoup d'activités. On a parlé de vos chœurs, Renaud Bouvier. Donc, il y a le chœur Ostias, qui existe toujours.
Qui était un chœur, au départ, de parents et de profs qui soutenaient les élèves. Parce que ce qu'il y a de formidable avec ces voix jeunes, c'est qu'elles sont jeunes. Mais ça manque parfois un petit peu de punch et de force, surtout dans les voix de garçons. Et donc, j'avais besoin d'un chœur qui vienne les seconder. Et ce chœur a pris son indépendance et maintenant c'est un chœur d'oratorio de dimension moyenne, une cinquantaine de personnes que je dirige depuis qu'il s'est fondé avec moi.
Donc une répétition par semaine.
Une répétition par semaine, le lundi soir.
De même que le chœur dont nous parlions tout à l'heure, Cantabile de Neuchâtel, ça ce sont les deux chœurs, disons, réguliers. Et puis ensuite, vous avez les vocalistes romans.
Qui est aussi un chœur régulier.
Assez régulier aussi.
Oui, ouais. On travaille quasiment toutes les semaines, le jeudi soir.
Et l'Académie Vocale de Suisse Romande, alors comment s'organise le travail à ce niveau-là? C'est un peu en fonction des propositions qu'on vous fait?
Alors, on se voit avec Dominique Thi, puisqu'on est deux à piloter et à diriger ce chœur. Oui, alors les activités, c'est réfléchir à des programmes, répondre à des sollicitations qui sont assez nombreuses, mais ensuite, après, il faut les financer. Et donc, c'est une grande partie du travail, c'est la partie administrative, on va dire, enfin, faire vivre l'ensemble. Et puis, on a 1, 2, 3 projets par année pour l'instant.
Ces projets, en fait, ce sont des sollicitations ou c'est vraiment des choses qui partent de vos envies? D'abord, comment se fait la répartition des envies? Chacun vient, puis en fonction de sa forte envie, vous le laissez Dominique Thi faire ou Dominique vous laisse faire cette œuvre. Comment ça se passe?
Oui, ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des concerts qu'on fait en commun, où on dirige chacun le répertoire qu'on affectionne. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que moi j'ai une amitié pour Dominique Thi, on s'est rencontrés en voulant fonder ce chœur professionnel, mais on est très différent, je crois, et assez complémentaire, j'espère. Et donc, quand on a un projet en commun, que l'un dirige et l'autre assiste à ce moment-là, et puis ensuite on inverse. Donc, on a chacun notre répertoire, on a chacun notre approche, et l'autre est l'oreille attentive qui vient après en privé dire, voilà, moi je ferais ça plutôt comme ça, et qu'est-ce que t'en penses? Enfin, on discute beaucoup. Et il y a des projets communs donc, et puis il y a des projets que l'un fait ou l'autre fait. Par exemple, ce Va-Herbe, moi, j'avais envie de faire ça depuis, je pense, 8 ans, enfin très très longtemps, depuis que j'ai découvert l'œuvre. Et dans le fond, c'était aussi une de mes motivations de fonder un ensemble professionnel, c'était d'avoir un cœur capable de le chanter. Et de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est d'abord par Virginie Falquet, la pianiste, qui m'a dit « Ah ben bon, on pourrait faire ça ensemble ». Et puis comme elle était l'accompagnatrice de Patrick Jeunet, elle lui en a parlé, qui a dit « Ah mais ça, pour le quatuor, ça serait pas mal ». Et puis c'était finalement, c'est greffé sur leur festival, qui était celui de leurs 30 ans. Et qui s'est passé à l'opéra. Donc en fait, il y avait beaucoup de conditions qui se sont empilées les unes sur les autres, qui ont fait des conditions de travail de rêve pour moi.
Comment est-ce que vous imaginez l'idéal, au fond, pour un paysage de chorale du niveau, on va dire, professionnel ou quasi-professionnel, hein? Parce que sur cette question-là, il faut toujours s'entendre. Que veut dire professionnel? Il y a la qualité, évidemment, la qualité musicale, la qualité technique de l'ensemble. Il y a aussi, tout simplement, le nerf de la guerre qui fait qu'on est professionnel ou on ne l'est pas. On est payé pour le faire ou pas. Comment est-ce que vous aimeriez idéalement que les choses se fassent, Renaud Bouvier? On peut se dire ça. On est au début de l'année.
Oui, notre idéal, ça serait de pouvoir salarier des choristes, qu'un ensemble puisse vivre comme ensemble et pas comme un chœur qui répond à des projets ou à des invitations, des sollicitations. Donc ça suppose en effet beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour en faire un chœur. c'est-à-dire une pratique régulière, peut-être pas quotidienne, mais enfin quand même que les réflexes chorales qu'on demande à nos ensembles amateurs s'acquièrent aussi au niveau professionnel. C'est pas évident quand on se voit aussi peu. Et donc d'avoir une base, un ensemble, en fait le modèle pour ici c'est l'orchestre, c'est des titulaires qui ont un poste et puis des programmes. Alors on sent bien que pour l'instant le chant choral n'a pas encore le développement peut-être suffisant pour pouvoir justifier un tel ensemble, en tout cas le bassin, disons, ici, est peut-être un petit peu restreint par rapport à, au chœur que vous citiez en Allemagne ou en Angleterre ou même à Paris.
Aux Pays-Bas avec le chœur de chant des Pays-Bas, qui est, disons, un pays qui serait à peu près de nos dimensions, de la Suisse.
Ouais. Voilà. Enfin, peut-être que les choses se font un peu par boule de neige. Hein. Si un chœur défend un répertoire dans un sens assez large, hein. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je ne prône pas un chœur qui ferait que de la musique contemporaine. Enfin, contemporaine au sens un peu strict, quoi.
Avant-gardiste.
Avant-gardiste, dans la recherche de l'écriture. Non, pourquoi aussi on aime tant les chœurs, c'est qu'on a un contact vraiment avec le public et avec les gens qui forment le chœur. On essaye d'aller toucher quelque chose de très intérieur, de très profond dans l'être humain. D'abord le chef qui rencontre une œuvre, qui la transmet à ses choristes et puis ensuite qui la transmet au public. Ça, un chœur professionnel aussi, comme un orchestre, fait une symphonie de Beethoven en essayant d'y mettre quelque chose de profond. Parce qu'un orchestre amateur peut faire aussi.
Mais vous pensez qu'en Suisse romande, parce que c'est la Suisse romande, c'est encore une petite partie de la Suisse, le chœur de chant des Pays-Bas, c'est un pays et c'est une seule culture, on va dire, sans entrer trop dans les détails, mais enfin c'est pour un pays, quoi. Est-ce que vous pensez qu'en Suisse romande, on pourrait revendiquer une formation de ce type et pouvoir la rendre viable ?
Ah, je pense qu'on pourrait tout à fait revendiquer une formation de ce type. Et puis aussi une formation au sens où les conservatoires pourraient former des chanteurs. Ça en prend petit à petit le chemin, mais on forme beaucoup les chanteurs pour le plateau lyrique. Les chœurs des conservatoires sont pour être développés, quoi, dans ce sens. Dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, il y a les pratiques de la maîtrise, des maîtrises. On considère le chant choral un petit peu différemment, quand même, d'ici. Donc, il me semble que, oui, ça, dans l'avenir, on pourrait dessiner quelque chose d'assez précis où le chœur a une place plus centrale dans la musique et donc un chœur professionnel pour avoir il pourrait y avoir plusieurs ensembles professionnels. Maintenant, c'est sûr que le bassin étant petit, il faut tourner. Il faut excéder les frontières, aller en Europe, en France, enfin, faire vivre le répertoire d'ici ailleurs et puis faire vivre le répertoire d'ailleurs ici, enfin, en essayant de faire partager ça au plus grand nombre.
Merci Renaud Bouvier. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de succès, beaucoup d'enthousiasme, comme vous l'avez démontré aujourd'hui pour l'avenir. On va se quitter en entendant l'ensemble, donc l'Académie vocale de Suisse romande, c'était en août 2009, dans une œuvre que, pour ma part, j'avais entendu chanter par le chœur de la radio du SVR. Donc, c'est pas une partition très facile pour les chœurs, je crois. Un arrangement de Clitus Gottwald de Mahler, Ich bin der Welt abhand gekommen. C'est tiré des Rückertlieder. Un extrait des Rückertlieder de Gustav Mahler, arrangé par Klitus Gottwald et chanté par l'Académie Vocale de Suisse Romande sous la direction de mon invité aujourd'hui, Renaud Bouvier, que vous pourrez applaudir. Ce sera mercredi à la cathédrale de Lausanne dans un programme Schubert et Schumann avec le chœur Hostias et les vocalistes romands. La semaine prochaine, ce sera une version magazine de Chant Libre. Vous écoutez Espace 2, les informations de 20h.